Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, le thème des nouvelles vagues, c'est la famille. Aujourd'hui, théâtre. Les tables sont en plexiglas ou en verre. On n'y boit que de l'eau. Le repas n'arrive, pour ainsi dire, presque jamais. La famille est égyptienne et c'est son dernier souper. Appuie Seguin, France 2 et BFM TV n'ont pas fait le deuil de la démagogie. C'est le titre d'un article de Samuel Gontier pour l'hebdomadaire Télérama. Le journaliste raconte avoir mis plusieurs jours à faire descendre colère et épouvante pour reprendre calmement le compte-rendu du traitement médiatique de l'hommage présidentiel rendu aux familles de victimes de l'accident de car de Puy Seguin. Sur l'un et l'autre des plateaux de télévision, François Hollande est présenté par des experts psy comme, je cite, le chef de la famille française ou encore l'incarnation du père de la nation ou encore la figure parentale apaisante. Je m'interroge, écrit Samuel Gontier, plutôt énervé, plutôt que du régime vichyste, les journalistes de France 2 et BFM TV ne seraient-ils pas nostalgiques de la monarchie absolutiste du droit divin ? Nostalgie ou pas, la grande nation famille ne semble pas regarder ses enfants morts également, rappelle enfin le journaliste, car peu de cas a été fait ce jour-là des deux adolescents morts à Marseille. L'ensemble de l'article captation d'écran télé à l'appui est à lire sur télérama.fr. Famille d'auditeurs, vous écoutez France Culture, bienvenue dans les nouvelles vagues. En fin d'émission, nous demandons à quelqu'un de sonder ses souvenirs à la recherche de moments importants, de moments marquants de son parcours, des expériences les plus souvent esthétiques comme autant de nouvelles vagues. Cette semaine, c'est Anne-Marie Lallemand qui se prête à l'exercice et aujourd'hui, elle évoque sa rencontre avec plusieurs amis réfugiés espagnols à Paris il y a quelques années. Récit vers 16h45. Le journal Washington Post titrait récemment « La mère de famille a gagné l'Internet, qu'est-ce que cela veut dire pour nous ?» C'est Titiou Lecoq qui nous le rappelait hier, elle dont les images et les textes contrastent avec la propreté hallucinante, les intérieurs parfaits et tendres des blogs de maman dont les photos de famille sont aussi spontanées qu'un portrait présidentiel. Des photos ratées, embarrassantes, des photos de famille reflétant une certaine Amérique des années 70-80, voilà ce que propose par ailleurs en masse le site Awkward Family Photos dont Victor Brancard a interrogé pour la revue Nichons-nous dans l'Internet l'un des créateurs. On le réécoute, il était avec nous hier.
Déjà, on rigole quand on les regarde, ces photos. C'est un peu le produit d'appel, à mon avis. Et puis, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant en faisant défiler les photos, c'était la question qu'on se pose à chaque fois, c'est pourquoi est-ce qu'ils se sont mis dans cette position-là ? Pourquoi ces tenues ? Pourquoi est-ce que certains tiennent tous un aspirateur dans les mains ? Pourquoi est-ce qu'on voit plus un divan que le reste de la famille ? C'était vraiment ce pan un peu caché de l'intention du photographe, en fait, que je trouvais intéressante. Puis ça, voilà, ça parle d'histoires de famille qui n'étaient pas forcément censées être montrées, de situations qui n'étaient pas censées arriver. C'est le sujet qui déborde du cadre. How are things tonight? Soothing silence turns my body loud. Feel the pulse engaging on. I'm worried something's wrong. There's a growth in between. In between my life. You gotta hold my hand. Feel the pressure I have made. Be not so fearful, not so tame. I used to hate almost everyone playing these songs. I'm on my side just for a while. Make the best of lost time. Last time.
closely in between your thighs, a place where I can hear my mind. The garbage trucks pick up the remains of old stories. Old stories stop.
Commencez Anne-Laure Chanel, notre réalisatrice choisit de vous faire entendre le groupe Patriotic Sunday avec le titre Garbage Truck. C'est la formation d'Éric Pasquereau. Elle sera en concert le 25 novembre prochain dans l'une des plus chouettes salles parisiennes, l'Espace B, qu'il faut soutenir. Vous écoutez les Nouvelles Vagues sur France Culture, c'est le quatrième temps d'une série d'émissions autour de la famille. Nous nous sommes demandé lundi comment l'Église catholique regardait et prenait ou non en compte les évolutions des mœurs et pratiques familiales suite au dernier synode. Regard qui diffère évidemment de celui que posent Mathias et Irène Théry, que nous recevions mardi, pour parler de leur film La sociologue et l'ourson. Hier, mercredi, ce sont quelques photos de famille circulant de manière virale sur Internet que nous regardions et l'écart qui existe entre le vécu et parfois sa représentation. Aujourd'hui, c'est à un dîner de famille que l'on assiste. Les murs sont de zinc ou de métal, la table est de verre ou de plexiglas. De l'eau est servie par litres et seuls saladiers que l'on voit contiennent des glaçons. Pour ce dernier dîner, il fait froid. Réunis autour d'un mystérieux général, comme les apôtres autour du Christ ou des mafieux autour d'un parrain, des archétypes de la bourgeoisie kérote mènent au doigt et à l'œil des domestiques soumis, ne s'écoutent jamais vraiment et s'envoient à la figure des chiffres comme autant de nourriture qu'ils ne mangent jamais, qui ne vient jamais, comme la mère. The Last Supper est le titre de votre dernière pièce, Armée del Attar. Elle est jouée en ce moment jusqu'au 15 novembre au Théâtre de Gennevilliers. Le 17 sera à l'Apostrophe à Cergy-Pontoise, le 21 au Théâtre Liberté à Toulon, avant Annecy, Bruxelles et Bologne. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Boutros-Boutros-Ghali et Nanda Mohamed, vous êtes, vous, interprètes. Vous interprétez respectivement le père et la belle-fille. Merci beaucoup d'être là. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci, bonjour.
Hier, nous rappelions à quel point le théâtre s'empare de la famille à la fois comme un endroit social, à la fois comme un thème, depuis la tragédie grecque en passant par Tchekhov jusqu'aux comédies de boulevard. Comment les uns les autres vous êtes revenus dans l'idée ou dans la lecture à ce patrimoine littéraire?
En fait, moi, la famille, c'est un thème qui est très récurrent dans mon travail. Le rapport au père et à la mère, mais surtout au père. Et c'est pas le premier spectacle où je traite de le rapport de pouvoir au sein de la famille. En 2000, j'avais écrit et mis en scène La vie est belle, où on entend dans mon oncle d'Amérique, qui traitait d'une famille de la classe moyenne. Là, je prépare un nouveau spectacle qui s'appelle Mama, qui le rapport à la mère ou à la femme et l'épouse, la fille, qui passe aussi au sein de la famille. Pour moi, la famille, c'est au centre de tout, en fait.
Parce que ça vous permet quoi? Parce que c'est un théâtre en soi, déjà, dans le théâtre, la famille?
Oui, mais c'est surtout, pour moi, la famille, c'est une petite société, et je trouve que le rapport de pouvoir au sein de la famille reflète le rapport de pouvoir au sein de la société, et les problèmes de la famille sont souvent les mêmes problèmes de la société.
Comme un rapport métonymique du petit, de la petite cellule vers le grand.
Oui.
Façon de faire famille, c'est aussi une troupe de comédiens sur scène, en dehors de la scène. En quoi est-ce que ce rapport familial entre les comédiens, en dehors de la scène, est important pour créer une famille sur scène? Je m'adresse à vous, Boutros Boutros-Ghali ou Nanda Mohamed.
Moi, je pense que une fois qu'on commence à travailler ensemble, que ce soit
dans nos rôles respectifs chacun ou uniquement en étant comédien entre nous, ceci crée une famille, même si elle n'est pas directement liée, mais c'est une famille qui vit ensemble, qui mange ensemble, qui fait des répétitions ensemble. Donc on commence à vraiment devenir une famille, même si on est complètement étrangers l'un de l'autre.
Les relations de famille, ça évolue dans la vie quand on est une famille liée par le sens. J'imagine que ça évolue quand on est une famille de comédiens. Est-ce que vous sentez les représentations bouger en même temps que votre vie de troupe, de comédien bouge et avance?
Oui, c'est sûr. On a commencé il y a 2 ans et maintenant, je me sens qu'il y a beaucoup de changements, en fait, par rapport au spectacle et entre nous aussi. Et c'est pas toujours facile, mais c'est toujours très intéressant de savoir quelle relation on a entre nous et comment cette relation change toujours. Et pour moi, parce que moi je suis syrienne et pas égyptienne, et c'est toujours très intéressant d'être dans cette famille. Et cette famille, pour moi, ils sont tous égyptiens et c'est une famille égyptienne en fait. Mais je me sens très 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 confortable avec tous, avec tout le monde. Même c'était pas très facile pour moi le premier année parce que moi je sais pas très bien. Beaucoup de détails sur la famille égyptienne.
Parce que vous pensez que c'est très différent. Vous regardez la famille égyptienne comme quelque chose de très différent
d'une
famille
ça.
Syrienne.
Mais à la fin, c'est presque comme chez nous, en fait.
Qu'est-ce qui serait différent alors?
Peut-être on est un peu plus ouverte, un peu par rapport à la relation entre la femme et les femmes et les hommes. mais pas trop trop ouverte quand même, mais moi je sais pas, je savais pas beaucoup de choses sur la société égyptienne, la famille, les familles égyptiennes et tout ça, et c'était comme un adventure.
Comme une aventure.
Ouais, aventure.
Ahmed El Attar, vous avez l'impression de camper là une famille archétypale égyptienne avant toute chose, c'est-à-dire qu'elle est égyptienne et rien d'autre?
Elle est égyptienne, oui, rien d'autre, non. C'est-à-dire que moi, je pense que il y a quand même... c'est surtout là... Je pense ce qui identifie cette famille, c'est sa classe, plus que sa nationalité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de résonance avec les autres pays arabes. Avec, bien sûr, il y a toujours des nuances. Une famille libanaise ou syrienne ou tunisienne de la même classe aura quelques nuances de différence, mais en même temps, il y a beaucoup de rassemblance. Et je pense aussi que d'une certaine façon, il y a aussi des ressemblances avec des familles d'autres d'ailleurs. J'imagine une famille russe. Ou même occidental, il y aura beaucoup de codes qui vont changer, mais en même temps, sur le fond, sur le rapport de classe, je pense qu'il y a quand même pas mal de ressemblances et de points communs.
Je ne voulais rien faire pour une raison banale. C'est que jusqu'à l'âge de 15 ans, mon père avait gardé toute sa fortune. Il l'a perdu dans le crack américain. Bon, ça, parce que le coton est tombé, il y a beaucoup de types qui sont ruinés. Mais jusqu'à 15 ans, nous étions tous à l'image des héros du livre d'Albert Cosseri, dont le titre « Des fainéants dans la vallée fertile ». On était riches, on sortait, on avait nos clubs, les Égyptiens étaient transparents. Il n'y avait que des clubs, des églises, une chose qui m'a le plus frappé.
Des serviteurs.
Des serviteurs, et des serviteurs qui n'habitaient pas dans nos quartiers.
On entend ici la voix d'Ibrahim Berto Fahri, qui est un journaliste égyptien exilé en France, qui s'exprime sur son appartenance à une certaine bourgeoisie égyptienne et à l'invisibilité du peuple égyptien, ou même plus loin, dans ce portrait sensible qui était diffusé et fait par Chris en 2000, il était vraiment question d'un peuple arabe qui était transparent. C'est-à-dire, même le cinéma arabe, il n'y allait pas. C'était mal vu que d'aller au cinéma arabe. Pour lui, c'était un cinéma qui devait être muet, au même titre que le peuple dont il émanait. Est-ce que cette classe que vous campez dans ce dernier souper, c'est une classe qui n'appartient presque pas au peuple égyptien, Ahmed El Attar ?
Oui et non. Je veux dire, je comprends très bien ce qu'il dit, parce que ça n'a pas beaucoup changé, d'une certaine façon. C'est exactement de ça que le spectacle parle. C'est du fait que la partie invisible, c'est-à-dire que cette famille ne voit pas le reste des Égyptiens. Ils sont transparents, les serviteurs sont pas là. Ils sont là juste comme des objets, en fait. Et c'est très curieux de voir comment le temps passe, les choses évoluent, la société évolue d'une certaine façon, mais il y a quand même quelques points qui sont très durs à changer.
Est-ce que ça ne change pas ou est-ce que cela se crispe davantage? Parce que vous campez ce tiné, pas dans n'importe quelle période politique non plus. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de renfermement encore plus grand, encore plus évident de la bourgeoisie sur elle-même au moment de la révolution égyptienne?
Je pense que il n'y a même pas ce campement, en fait. Il y a une inconscience de ce qui se passe autour, en fait. Il y a ce monde presque hermétique qui ne sent pas, qui voit les changements avec une distance. Et c'est exactement ce changement, le changement de cette classe, de ce rapport qu'elle a avec le reste de pays, qui est nécessaire, à mon avis.
Et qui n'arrive pas, selon vous?
Et qui n'arrive toujours pas, mais moi j'y crois parce que je pense que tout a changé autour et c'est vraiment le dernier boulon pour changer et pour aller vers d'autres horizons, en fait.
C'est pourquoi cette famille-là est enfermée. Alors je disais tout à l'heure, pour ne pas avoir vu précisément ces parois, qu'elles étaient ou de métal ou de zinc. En tout cas, elles font office de blocos ou de containers qui n'ont aucune fenêtre sur l'extérieur. Comment est-ce que vous avez travaillé cette scénographie?
En fait, moi je travaille avec un très grand scénographe libanais
depuis
15 ans, Hassan Baydoun. Et moi j'ai juste l'idée de l'espace, c'est-à-dire... j'étais intrigué par le visuel de Last Supper de Da Vinci. Et puis, c'est vraiment le travail de Hussein. Quand il m'écoute parler de spectacle ou qu'il voit des répétitions ou qu'il lit des bouts de texte, il vient avec une proposition. Et c'était sa première proposition, comme toujours. C'est la première proposition qui fonctionne à merveille. Alors... la transparence du décor, les murs presque hermétiques, toujours en plexi. Et alors ça donne un peu ce côté glamour, mais c'est aussi ce côté vide.
Et froid.
Et froid, ce côté hermétique, parce qu'ils sont renfermés. Et ça donne beaucoup de sens au spectacle, en fait.
De même que l'eau qui ne cesse d'arriver par bro, qui est peut-être la seule chose que les personnes autour de la table ingèrent, il y a des glaçons, ce qui vraiment renforce le caractère très froid et presque distant en fait de ce dîner de famille, qui est à l'inverse des dîners de famille ou bien que l'on connaît ou bien que l'on imagine avoir lieu en Égypte ou en Syrie. Pourquoi est-ce que vous avez voulu cette distance-là, ou alors quel mot vous avez employé avec votre scénographe pour qu'il arrive à cet endroit-là?
Quel mot? Beaucoup de mots, alors je ne sais pas exactement lequel, mais c'est quand on travaille avec un artiste depuis des années, Il y a beaucoup d'affinités personnelles et artistiques. Alors, il y a une genre de télépathie entre nous. Moi, je raconte et lui. Et puis, c'est sur une période qui peut durer pendant des mois. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, on va faire un spectacle autour de la table. C'est Davinci l'idée. Et puis, quelques mois plus tard, je lui montre quelques bouts de texte. Je lui parle davantage. Mais je pense aussi que le fait... Pour moi, c'est un monde faux et sauvage. Et même si on a l'impression que on rit, on mange, on rigole, on pleure, on s'énerve, mais en fait, c'est faux. Et c'est pour cela que il y a ce côté froid et transparent et presque. C'est comme si c'était la famille Adams, en fait.
D'ailleurs, en regardant le spectacle, on a l'impression que vous jouez avec des archétypes, avec des sortes de marionnettes, la marionnette de la figure paternelle, mais aussi patriarcale, qui est à la fois un possible général, qui est aussi une figure de parrain, de mafieux, mais la belle-fille et la figure archétypale de la belle-fille, la bimbo et la figure archétypale de la bimbo, etc. Est-ce que ça rejoint, je sais pas, moi j'ai pensé éventuellement à des séries télévisées où vraiment on est très très proche des clichés, en fait.
Oui, mais le vrai problème, moi je pense que ces clichés sont tellement réels. Oui, sont tellement proches de la réalité que c'est ça qui est effrayant, en fait. C'est que ces clichés sont tellement proches de la réalité. La bimbo, la femme voilée, mais qui a quand même tout le contrôle de la famille, de sa famille. L'autre qui complètement, on a l'impression d'être complètement libéré parce qu'elle s'habille très ouvertement, mais en même temps, elle est
totalement soumise
à son mari. Je veux dire, c'est vraiment des stéréotypes et des archétypes, mais en même temps, ils sont tellement vrais que c'est effrayant.
Tout à l'heure, Nanda Mohamed disait qu'elle ne connaissait pas ni ces familles égyptiennes, ni cette classe bourgeoise. Est-ce que c'est votre cas, Boutros-Boutros-Ghali ? Est-ce que vous interprétez là ou vous baignez dans quelque chose qui vous est lointain ou à l'inverse que vous avez pu observer de près ?
Non, moi, je pense que j'ai même connu des gens comme ça, de cette société, malheureusement. Et
pourquoi donc, malheureusement?
Parce que c'est une tranche de la société qui s'en fout de tout ce qui est autour, qui ne pense qu'à elle-même, qui ne voit que de l'argent, qui ne voit que un rapport de force avec le tout ce qu'il y a autour. Et c'est une tranche qui existe malheureusement, donc qui est là et je l'ai côtoyé de temps en temps. J'en connais même quelques-uns. Enfin, j'en suis pas très fier, mais c'est ça, quoi. Et non, je connais ce genre de famille.
Cette figure de général, elle semble assez indifférente à tout ce qui se passe, au bazar ambiant, hein, parce que on les entend, vous le disiez tout à l'heure, Ahmed El Attar, pleurer, rire, gueuler, sans que rien ne se dise exactement, en fait, avec une vacuité énorme. Et peut-être lui, plus que d'autres, semble complètement flotter, et par exemple, ne pas participer directement à l'asservissement des domestiques, ne pas participer directement à cette violence faite aux domestiques, comme s'il était un petit peu distant, même pas concerné par cette forme d'exploitation.
Non, moi je pense pas, parce que au fait, c'est dans sa nature, la nature du général, qui est de maltraiter, ce qui est très normal chez nous, qui est de maltraiter ses subordonnés. Et donc je pense qu'il est habitué à ça. Puis il y a toujours le rapport de la puissance que un général pourrait avoir, de l'influence qu'il peut avoir avec son copain qui est le type qui est très riche. Donc le pouvoir avec l'argent, c'est une combinaison qui marche très bien.
Et la fascination aussi qu'il exerce hein, sur cet homme-là et sur toute la famille, qu'il le regarde, qu'il l'attend quasiment, qu'il le prie ou qu'il prie son arrivée, c'est quasiment de cet ordre-là en fait.
Aussi.
Nanda Mohamed, est-ce que vous avez dans le jeu qui, par exemple, s'exerce avec les domestiques ou les serviteurs, la femme et les deux hommes, comment est-ce que vous vivez ce jeu-là au théâtre ?
Par rapport quoi ?
Ben, c'est-à-dire par rapport à l'incarnation de cette maltraitance, en fait, comme le disait à l'instant Boutros-Boutros-Ghali, est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que c'est une des choses qui met le plus mal à l'aise, évidemment, hein, quand on regarde ce dernier souper. Comment est-ce que ça se passe sur scène ?
Non, c'était super.
J'ai adoré.
Pour moi, c'est toujours très intéressant pour moi dans le théâtre quand je joue quelque chose pas bien ou pas, comment on dit, méchante un peu ou parce que j'arrive pas à faire ça dans la vie. Toujours, pas toujours, mais je sais pas, un peu méchante, oui, mais je réfléchis beaucoup quand je dans la vie avec les gens, tout ça, et dans le travail, c'est toujours très intéressant pour moi d'essayer de faire les choses qui est difficile de faire dans la vie. Et cette fois, avec ce personnage dans le spectacle, c'était très, très, très amusant pour moi parce que j'ai découvert beaucoup de choses par rapport à la relation entre cette femme avec les serviteurs et tout ça. Et toujours, je me suis dit, mais comment les gens, ils sont très, très... à l'aise avec ça, et c'est vraiment très 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 agressive et très
violent
mais je vois beaucoup de monde qui ont comme ça.
C'est quelque chose que vous avez observé tous les trois, ce traitement quasi esclavagiste, c'est pas facile à dire, des trois personnes qui sont domestiques autour de ce dîner, Ahmed El Attar.
Oui et non. Je veux dire oui dans le sens que, en fait, moi ce que j'essaye de faire, c'est de montrer à la société, aux spectateurs, le degré de violence
qui la traverse.
Qui la traverse. Et le degré de discrimination. Et, alors, par exemple, c'est quand même rare qu'on voit... c'est une scène un peu poussée, mais en même temps, elle est très proche de la réalité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est très normal d'avoir un chauffeur et de le laisser traîner pendant 14 heures dans la voiture... pendant qu'on fait une visite familiale banale ou qu'on fasse du shopping, et lui, il attend pendant des heures. Alors, pour moi, ça, c'est super violent. Super violent parce que c'est pas du tout encadré, dans le sens que j'imagine qu'il y a pas mal de riches en Occident qui ont des chauffeurs qui attendent des heures, mais à la fin de compte, il y a un système de paiement qui est encadré par la loi, qui permet à ce chauffeur de travailler un certain nombre d'heures, de être payé au-delà de certains nombres d'heures, d'être payé
en heures supplémentaires
et tout ça. Et ça, ce système n'existe pas. Et du coup, ça devient de l'esclavagisme. Mais par contre, personne ne voit ça comme ça. Tout le monde le voit comme très normal d'avoir le chauffeur attendre et de ne pas... Et si on lui donne quelque chose de supplémentaire, c'est un geste de bonté et de générosité. Quand, en fait, c'est pas du tout ça. C'est un geste d'extrême violence et c'est presque de l'esclavagisme moderne. Et la même chose se passe avec les nounous, avec les bonnes, avec tout ce qui sert ce monde-là. Et moi, ce que j'essaie de montrer, de leur montrer comment c'est tellement violent, parce que je sais qu'il y a... en fait, il n'y a pas de noir et blanc dans la vie. Et il n'y a pas des gens qui sont intrinsèquement méchants et les autres ne l'ont pas. Et des fois, on a tellement... La société s'habitue à quelque chose et ne voit pas vraiment la réalité des choses. Alors moi, je sais qu'il y a des gens de cette société qui ne sont pas vraiment méchants, en fait.
Mais ils ne voient pas, selon vous.
Voilà, ils sont gentils. Au contraire, ils sont même très gentils. Mais ils sont dans un système... dont ils ont l'habitude et qui le voient pas du tout, qui le voient rien de mal, et qui font les choses qui sont extrêmement violents et extrêmement méchants, et par contre, ils le voient pas. Et moi, j'essaie de leur montrer que non, c'est violent, non, c'est quand tu traites un, quand tu traites les les gens qui te servent de cette façon-là, c'est pas normal et c'est pas bien. Et alors, je pousse un peu plus. Je pousse l'habituel pour qu'ils deviennent
extravagants et qui frappent.
Exactement.
Quand vous dites que vous essayez de leur montrer, alors par exemple, moi j'ai vu la pièce au théâtre de Gennevilliers, il y avait, je pense, pas beaucoup de membres de la bourgeoisie égyptienne dans la salle. Est-ce qu'il vous arrive ou est-ce qu'il vous est arrivé hein, depuis ce travail, en effet, de faire vraiment miroir et de jouer devant cette bourgeoisie kairote?
Ah oui, oui.
Et ouais. Alors?
Bah, il y a plusieurs réactions. Il y a les. Moi, je pense qu'il y a. Ça dépend des générations. La génération plus âgée, vraiment, elle est muette, presque glacée, en fait, parce que
quand comme même, le
il
décor.
Y a, oui, il y a un mémoire, il y a un miroir qui reflète énormément. Je pense ce que voilà, les choses sont tellement claires qu'il n'y a pas de moyen de faufiler. Les jeunes sont beaucoup plus réceptifs, c'est-à-dire que c'est un soulagement de voir l'interminable dîner de famille.
Moquer
un peu et montrer comme ils l'ont vraiment. Mais je pense aussi que c'est pas nécessairement, ça veut pas vraiment dire que les jeunes vont changer les choses. Hein. C'est tout autre. Mais je pense que le plus important pour moi, c'était voir la réaction du reste de la société. C'est-à-dire les gens qui n'appartiennent pas à cette classe. Moi, j'appartiens pas à cette classe, mais je la côtoie. Régulièrement du fait de plein de choses. Mais il y a plein de monde, le reste de la société ne la voit jamais. Mais par contre, c'est comme il y avait une sorte de joie de découvrir que finalement, quelqu'un leur montre cette classe-là comme elle est et tous les sentiments, les idées que le reste de la société construit ou essaye de sur cette classe
s'effondre,
deviennent réalité en fait. Pour une fois, on est dans le concret, on les voit comme ils sont et ils sont, c'est des sauvages et comme tout le reste de la société pense ça mais n'ont pas la preuve, c'est comme si c'était la preuve en fait.
Nahla est une femme que j'ai rencontrée, que je suis depuis quelques années. Nahla porte un niqab. Nahla sous son niqab est blonde. Plutôt très jolie. Et Nahla, il y a 10 ans, mettait des mini-jupes. Et comme une part importante de la bourgeoisie égyptienne, Nahla effectuait un retour au religieux qui, elle, se fait de façon extrême, vu qu'elle porte le niqab, qui est quand même pas la majorité des égyptiennes, mais quand même, il y a une dizaine d'années. Et cette réislamisation, effectivement, de la société égyptienne s'est faite par le haut, par les classes sociales aisées. Il est devenu de très bon ton, dans la bourgeoisie, on porte des beaux voiles, on s'offre, au Ramadan, pour les fêtes religieuses, on s'offre des cadeaux religieux, des beaux DVD, tout ça. Il y a des prédicateurs extrêmement influents, comme Amr Khaled, qui ont surfé sur cette vague en déculpabilisant, au lieu d'être dans la dialectique des prédicateurs habituels, traditionnels, tels qu'on les connaissait, qui promettaient l'enfer, enfin, qui parlaient beaucoup de l'au-delà, etc. Amr Khaled, qui fait partie de ces prédicateurs libéraux, qui jouent un petit peu sur ce qu'on appelle l'islam de marché, justement, a dit, mais vous êtes riche, ayez des téléphones portables, profitez des plaisirs de la vie, etc. Mais avec votre téléphone portable, envoyez 5 SMS par jour à vos amis pour dire que Dieu est grand. Oui, vous êtes riche, vous voulez aller à la plage, mais vous avez totalement raison d'aller à la plage, enfin de profiter de tout ça. L'au-delà, à condition que vous soyez, vous ayez un comportement. Alors, aller à la plage, aller à les plages pour hommes et pour femmes. Et tout ça, ça contribue à déculpabiliser cette société qui, effectivement, s'est réislamisée en les 15 dernières années. Something that she said, something that she said, where your robes are lying. Something that he said,
something that she said, something that she said was a way to find another day. Something that he said, something that he said made her think that someday he could say everything that she was saying, every game that he was playing, everything they nearly didn't do about the thing they couldn't say.
Juste avant cet extrait du dernier disque de Natacha Atlas, on entendait Claude Guibal, qui était au micro de Florian Delorme dans l'émission Culture Monde. C'était en mai 2011, Claude Guibal qui s'exprimait sur le bon ton religieux de la bourgeoisie égyptienne et les arrangements en fait de cette classe-là avec la religion. Ahmed El Attar, dans The Last Supper, cette pièce de théâtre où vous mettez en scène un dîner froid, on l'a dit, autour de la table il y a toute une forme de représentation de la classe bourgeoise kérote. La religion ne semble qu'un apparat, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs scènes au départ où en fait c'est un costume qu'on enlève avant de rentrer dans l'appartement. Qu'est-ce que ça veut dire sur le lien de cette classe bourgeoise égyptienne au religieux ?
En fait, moi je pense que la religion dans la société égyptienne et arabe,
de manière générale,
est un costume qu'on met. Pour se sentir mieux, pour justifier ou pour donner une excuse de tout ce qui ne va pas dans nos sociétés.
Mais selon quelle dialectique alors ? Comment est-ce que ça peut justifier ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire une violence de classe impossible, une soumission à la fois de classe mais aussi entre les sexes ? Comment est-ce qu'on justifie ça ?
On justifie ça simplement par le fait que comme on est sur le droit chemin. Et comme on prie et on fait toutes les choses qu'il faut faire pour accéder au droit chemin et au paradis, alors c'est pas possible qu'on soit mauvais. Voilà. La mesure de notre humanité et en fait se fie uniquement au cadre des de suivre les directives religieuses.
C'est le seul référentiel de la bonté ou de notre moralité.
Exactement. Et du coup, alors on peut faire plein de conneries, mais on a ce genre de garant. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, en fait. Parce que pour moi, c'est comme vous dites, c'est impossible. Je suis pas vraiment très religieux. Mais quand même, je me dis, pour moi, la religion, ça incite à devenir mieux, à que l'homme et la femme évoluent vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. On essaye toujours dans la religion, de toutes les religions, d'être meilleur de soi-même, de ne pas tuer, de ne pas même de ne pas faire du mal à son voisin et à sa famille et ainsi de suite. Et pour moi, c'est complètement contradictoire d'être aussi violent, inconscient. Et c'est pas uniquement cette classe. Hein. Ça, c'est moi, je parlerai du reste de la société arabe. C'est-à-dire que quand on voit la violence des guerres dans le monde arabe en ce moment, quand on voit l'accrochage au pouvoir, quand on voit aussi la misère et le degré de misère qui reflète que un manque absolu de vie commune, de citoyenneté, de partage, de responsabilité sociale entre les différents membres de la société, je ne comprends pas comment on peut en même temps se dire croyant, religieux, voilà. Pour moi,
est-ce que ça veut dire qu'il y a des intérêts communs entre, puisque vous dites que finalement le théâtre pour vous c'est une façon de réfléchir à des rapports de classe, et qu'il y aurait une articulation des intérêts communs entre une classe religieuse et une classe détentrice du pouvoir et de l'argent?
En fait, ils sont tous les deux les militaires en Égypte depuis Nasser. Nasser moins, mais depuis sa date, on utilise la religion, ils utilisent la religion dans leur discours, et presque pareil que les frères musulmans. Hein. C'est un peu c'est les mêmes bases, c'est les mêmes, c'est le même discours, retouché un peu, mais c'est la même chose. Et pour moi, c'est en fait le problème aujourd'hui politique, c'est que on pense qu'il y a deux parties rivales. En fait, c'est le même parti qui s'entretue. C'est la droite religieuse conservatrice. Je parle de l'Égypte. Et c'est la même chose. Et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à trouver l'opposition. Parce qu'on pense que ce sont deux parties opposées. En fait, non, c'est la même idéologie. Et une fois qu'on aura compris ça, peut-être on trouvera la vraie opposition idéologique à cette idéologie, en fait.
Il n'est jamais question de religion à proprement parler dans les discours et dans les discussions dans cette famille. En revanche, il est beaucoup question d'argent et de shopping. C'est peut-être la seule chose qu'on entend, en fait, être prononcée, des chiffres et des achats. Est-ce que ça veut dire que c'est le nerf de la guerre, au même titre que c'est le nerf de la discussion de famille?
La société arabe, égyptienne et arabe, c'est une société de classe. Les limites ou sont tous effacés en rapport à l'argent. On peut être noir et riche, on accédera à cette classe. On peut être chrétien et riche, on accédera à cette classe. On peut être tout ce qu'on veut, tant qu'on est riche, on a ce pouvoir. Tous ces barrières s'effondrent. Une fois qu'on perd cette statue, alors on rentre dans toutes les sortes d'autres discriminations avec le reste de la société.
Mais c'est le passeport.
Voilà.
Il y a une femme qui ne vient pas, mais qu'on appelle pendant tout ce dîner, qui est la mère de famille. Elle est appelée, sa chaise est vide, et elle est comme dans un espèce d'espace qui nous permet de nous la représenter ou pas. Est-ce que vous, comédien, vous avez une image de cette mère qui ne vient pas, Boutros Ghali? Comment est-ce que vous l'imaginez?
Ah, ça, c'est probablement la grosse maman égyptienne qui est tout le temps à la cuisine, en train de cuisiner, pour faire plaisir aux enfants, aux petits-enfants. C'est cette femme coincée à la cuisine qui ne bouge pas. De temps en temps, parce que c'est une, quand même, ça représente une société assez riche qui a plein d'argent, donc... C'est au fait le mari qui lui fait plaisir en lui achetant des petites babioles, des petits machins. Mais je ne crois pas qu'elle ait une nécessité de sortir, d'aller. Je ne pense pas. C'est pour moi, c'est la grosse maman qui est toujours à la maison.
Pour vous, elle ne vient pas parce qu'elle est contrainte à rester dans cet endroit ou parce qu'elle ne souhaite pas venir?
Non, contrainte, je ne dirais pas. Mais au fait, ça lui fait plaisir de faire plaisir aux autres.
Donc elle reste dans cet endroit-là?
Elle reste dans cet endroit pour vraiment s'assurer que la bouffe est bien faite, mettre les dernières retouches sur le dessert, les machins. Donc elle est là pour faire plaisir aux autres. Elle n'est pas obligée d'être là. Donc je ne pense pas que c'est ce niveau de société qui va obliger la femme à rester à la cuisine, pas du tout, au contraire. Mais elle le fait avec amour, avec beaucoup de plaisir, à faire plaisir aux petits-enfants, aux enfants.
Parce que c'est une valorisation, c'est un endroit de valorisation.
Oui aussi, bien sûr.
Nanda Mohamed, comment est-ce que vous voyez cette femme qui n'arrive jamais?
Pour moi, c'est toujours, en général, et c'est toujours comme vous avez dit que c'est un peu cliché, stéréotype de les personnages. Et c'est la même chose avec la mère, en fait. Parce que, oui, on voit beaucoup des femmes comme ça dans la société arabe. Mais c'est pas toujours comme ça, pas du tout. Mais pour moi, c'est un peu comme ma belle-mère qui est égyptienne, en fait. Et que chaque fois, on va pour dîner ou pour manger chez eux, elle est presque toujours à la cuisine, en fait. Et même comme Pissot, il a dit, elle est toujours très contente de faire ça. Et elle est même contente de dire, oh, moi je suis fatiguée, moi j'ai fait tout, et moi je suis, c'est pour vous, moi je suis très contente. Et elle essaye de même de insister de pour manger trop tout le temps pour finir. Pour finir tous les plates, en fait. Et dans ce spectacle, Nadia, pour moi, c'est ma belle-mère, en fait, dans le spectacle aussi. Je me sens très, très mal pour elle, en fait. Même dans le spectacle, quelquefois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui est très, très loin d'elle. Et je crois qu'elle va être, triste. Moi, je crois qu'elle est dedans très triste, en fait.
Et vous, Ahmed El Attar, comment est-ce que vous voyez cette femme qui n'arrive jamais? Est-ce que vous partagez la vision avec vos deux comédiens?
Oui, d'une certaine façon. Quand je les entends parler et quand j'entends leur réaction, pas aujourd'hui, mais depuis un certain temps, parce que ça fait un moment qu'on joue le spectacle en Égypte et ailleurs. En fait, moi, je ne la pensais pas dans la cuisine.
Moi, c'était une question ouverte. Hein. Non,
c'est les acteurs qui ont décidé qu'elle est dans la cuisine. Moi, pour moi, c'était simplement l'absence. Mais je comprends, mais je suis d'accord avec eux, en fait. Oui, la mère égyptienne, elle est dans la cuisine, en train de faire plaisir. Dans cette classe-là, elle est en train de faire plaisir. Dans toutes les classes, elle est en train de faire plaisir aux autres, sans vraiment se prendre soin d'elle-même. Alors c'est une réflexion sur ça, mais c'est surtout sur l'absence de la mère, sur l'absence de la femme dans ce monde, pour deux raisons. D'abord parce que je la condamne pour son absence, fortement, de ne pas pouvoir prendre sa place vraiment dans la société, mais aussi parce que j'essaye de dire que rien ne changera aussi si elle n'est pas là. C'est-à-dire que la mère, elle est essentielle dans le changement de la société et de la famille, que si elle n'est pas là, pas simplement présente, c'est-à-dire assise, mais si elle n'est pas là, en toute conscience, en prenant tous ses droits et ses responsabilités aussi.
Ces habitudes qui sont des habitudes de violence ne bougeront pas. C'est-à-dire que si cette première habitude de l'absence de la mère de famille n'est pas cassée, alors les autres habitudes continueront. C'est faire peser beaucoup de responsabilités sur la mère de famille.
Oui, je pose beaucoup de responsabilités sur la femme. Je suis très conscient de l'oppression que la femme égyptienne et arabe subit dans ce monde patriarcal, très masculin quand même, qui est le monde arabe.
Mais pour vous, c'est l'heure de la révolution.
Et pour moi, c'est l'heure de la révolution. Et la révolution, elle sera faite par les femmes aussi, parce que c'est les femmes, pour moi, et c'est le thème de mon prochain spectacle, Mama, qui s'intitule Mama. Et c'est les femmes qui recréent les monstres qui sont les hommes d'aujourd'hui et de demain.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richaud.
Et à cette heure-ci sur France Culture, c'est l'heure de la rubrique Au singulier. Cela consiste à enregistrer des récits de moments marquants identifiés sur le coup ou a posteriori comme des ruptures, des points de départ, des révolutions, justement, pour des nouvelles vagues. Cette semaine, c'est Anne-Marie Lallemand qui se prête à l'exercice. Elle évoquait hier Chris Marker et Robert Kramer. Elle nous parlait lundi de sa découverte de l'Algérie dans les années 70. Aujourd'hui, elle évoque sa rencontre avec des réfugiés espagnols vivant à Paris.
Je reviens au milieu des années 70. Où je travaille déjà un peu comme assistante à la télé, mais surtout, à ce moment-là, j'ai une double vie. C'est-à-dire, dans la journée, je suis une assistante qui essaie d'être efficace dans son boulot à la télé, et le soir, je retrouve des amis espagnols. Franco vient de mourir, et donc, ils sont encore là. Ce sont des réfugiés du franquisme, ils n'ont pas voulu faire leur service militaire en Espagne. Ils sont là, ils traînent au quartier latin, comme on fait dans ces années-là. Ils habitent à plusieurs dans des hôtels de Saint-Germain-des-Prés. Ils fument pas mal. Et surtout, ils m'apportent des horizons nouveaux. Ils apportent une espèce de liberté, une façon de voir les choses, une joie de vivre que je n'ai peut-être pas à ce moment-là. Enfin bon. Je décide de faire un film qui va s'appeler « Une histoire d'Émile Joaquin ». Joaquin est justement le protagoniste de ce film. Bon, c'est une histoire d'amour entre deux hommes dans un milieu d'exilés à Paris. Enfin. Et on arrive à faire un long métrage pour vraiment très peu d'argent. Et 25 ans plus tard, j'ai une espèce de nostalgie de retrouver certains protagonistes de ce film et aussi tous ces amis espagnols qui sont pratiquement tous rentrés en Espagne. Et donc, comment fait-on pour retrouver les gens? On fait un film. J'écris un sujet qui s'appelle « Retour à la boule d'or ». La boule d'or, c'était le restaurant où on se rencontrait, le café où on se rencontrait à cette époque. Et je rencontre... Il y en a un de la bande qui vit entre Paris et Barcelone, d'autres qui vivent à Madrid. Enfin, je fais le voyage, mais en fait, je vais travailler surtout sur les archives de ce film. Et je retrouve aussi, quelques années plus tard, l'un d'entre eux qui, malheureusement, a chopé le sida, mais qui est toujours bien vivant. Et qui habite en Andalousie. Donc, je vais en Andalousie pour le retrouver. Et je l'intègre dans un nouveau film qui s'appelle Un voyage sur la Terre, qui est une histoire un petit peu compliquée, où je parle à la fois de journalistes algériens que j'ai connus précédemment. Enfin, je fais une espèce de pot-au-feu de toutes ces rencontres, parce que je pense que la vie, c'est ça. C'est qu'à un moment, on a besoin de se retrouver entre amis, même s'ils ne sont pas tout près de vous. Il faut essayer de les retrouver ou de trouver quelque chose qui vous relie. Et moi, ça passe toujours par le cinéma. C'est-à-dire, le cinéma, c'est les rencontres. Et je ne sais pas si j'arriverais à aller voir tous ces amis s'il n'y avait pas le cinéma. J'ai retrouvé comme ça... C'est pas un espagnol, mais c'est mon premier amoureux qui était un cinéaste nord-américain et qui est devenu un monsieur qui était le père du courant Black Exploitation, qui s'appelle Melvin. J'allais dire que tous les films ne font qu'un seul film et tous les amis, les amoureux deviennent leur propre personnage dans mes films.
Quand vous dites que ce sont des personnes que vous ne retrouveriez pas si vous n'aviez pas de film à faire, c'est-à-dire que la caméra, elle vous sert de prétexte, de force, de médium?
Complètement, surtout de force, je pense. Je pense de force. L'avant-dernier film, je cadrais encore. Parce que j'ai pas beaucoup parlé du numérique, mais qui est vraiment une révolution pour les femmes de ma génération, parce que quand j'ai fait l'IDEC, les filles n'avaient pas le droit de s'approcher d'une caméra. Et donc, je me suis acheté une petite caméra numérique à plus de 50 ans, en me disant, non, elle va pas exploser dans mes mains, je pourrais le faire, je vais cadrer moi-même. Bon, maintenant, le tout dernier film, je ne cadre plus, parce que je trouve que j'ai besoin de relais, maintenant. Mais ça a été une libération extraordinaire. Et que la caméra, c'est peut-être comme le micro pour vous. C'est une façon d'appréhender l'autre et le monde de façon formidable, moins directe. C'est aussi une arme, la caméra.
Bien, puisque c'est vous qui avez choisi Ahmed El Attar avant de bricoler vos lunettes, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écouter Prince? Vous êtes en plein atelier bricolage.
Oui,
j'espère que vous allez réussir.
J'espère aussi. Prince, pour moi, c'est un grand artiste. C'est un fait plaisir de découvrir des artistes comme Prince. C'est un grand musicien, un grand performeur, un compositeur, un auteur. C'est un mec qui joue des tas d'instruments, qui a fait plein de genres de musique, c'est une inspiration. Et j'adore les artistes qui deviennent comme lui, qui sont des vraies inspirations pour le monde.
Voilà. Merci beaucoup Ahmed El Attar d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup Boutros Ghali et Nanda Mohamed d'avoir été avec nous cet après-midi. The Last Supper, c'est le titre de la pièce dont nous avons parlé. Elle se joue en ce moment et jusqu'au 15 novembre au Théâtre de Gennevilliers, le 17 novembre à l'Apostrophe à Cergy-Pontoise, le 21 au Théâtre Liberté à Toulon, puis Annecy, Bruxelles et Bologne. Bonne route, les nouvelles vagues, ça se réécoute, ça se partage, ça se télécharge dans l'ordinateur. Abonnez-vous au podcast et diffusez bien autour de vous, ça nous fait bien plaisir. Ça nous fait aussi plaisir de vous lire. Merci pour vos messages sur franceculture.fr, Facebook ou Twitter. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. L'émission est réalisée par Anne-Laure Chanel avec aux manettes aujourd'hui Cédric Château. Dans un instant, Hervé Gardette et le 5 à 7. Thank you.